des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Il aime la vie par-dessus tout avec d'autant plus d'ardeur que le destin a bien failli la lui ravir en plein vol quand la Camarde, d'un coup de vent aux allures de coup de faux, réduisit la voile de son parapente il y a plus de 20 ans, c'était le 24 août 1988. Lui que vous avez pour habitude de voir survoler la France à bord de son hélico, il s'agit bien sûr de Sylvain Augier, homme de radio et de télévision, l'un des animateurs les plus avenants du petit écran que des émissions comme Faut pas rêver ou La carte au trésor ont rendu célèbre. De l'ivresse et l'insouciance, sa vie bascula dans l'angoisse et la souffrance. Témoignage d'un miraculé. Bonjour Sylvain Augier.
Bonjour.
Miraculé, c'est un bon terme ?
Alors oui, parce que je devais me tuer ce jour-là. Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, je n'ai pas basculé dans l'angoisse et la désespérance, puisque au contraire, 10 secondes après cette chute en vrille, je me suis retrouvé en pleine montagne avec une jambe arrachée, une artère ouverte. Et figurez-vous que j'ai vu ma dernière heure arriver, ça c'est textuellement l'expression, et je l'ai vu arriver. J'ai pensé que c'était fini, et je pense que c'est le moment de plus grand calme que j'ai jamais vécu de ma vie. Or, il se trouve qu'on m'a secouru, qu'on m'a embarqué pour me récupérer, me rétablir, me reconstruire. Ça a mis des années. Alors là, pour le coup, c'est un cauchemar d'angoisse et d'horreur, de souffrance, de douleur physique, psychologique, dépression, tout ce que vous voulez. J'ai eu droit à la totale. Mais curieusement, entre le moment où je dois me tuer et le moment où on va me récupérer, mais je ne le sais pas encore, et ben c'est un moment de calme absolu.
Il y a une sorte d'apesanteur à ce moment-là. Hein.
Ben, d'apaisement, je sais pas, d'intériorité. On vient en soi, on se dit c'est fini. J'ai repensé à tous les gens que j'aimais, Dieu sait qu'il y en a, à tous les moments que j'avais vécu, et Dieu sait que j'aime la vie aussi. Et voilà, je crois que c'est le plus grand moment d'apaisement de ma vie que j'aurais vécu. C'est paradoxalement celui où normalement on hurle au secours, mais là je pouvais appeler personne. Alors de toute façon, je ne pouvais m'en remettre qu'à moi, et je me suis aperçu cette fois-là que j'étais d'un calme olympien, comme on dit.
Miraculé, parce que vous êtes quand même tombé sur un carré de verdure.
Un triangle très très pentu entre un précipice et un pierrier, et très pentu, je dis ça parce que si jamais il avait été plat, je me serais volatilisé en arrivant. On déboule du ciel en torche à 100 km/h. Hein. Donc je tournais en tourbillonnant, en descendant en vrille, quoi. Et heureusement que c'était très pentu parce que j'ai frité en tangente, si vous voulez. Donc le pied a sauté, l'épaule a sauté, tout le côté gauche en fait a giclé, pas la tête. Mais si la tête avait touché, je serais mort. Et si ça avait été plat, voilà, je serais paraplégique. Et sans doute plus là pour vous en parler d'ailleurs, parce que les dégâts ont été tellement graves que je pense que je n'aurais pas survécu.
Est-ce qu'on se souvient de ces derniers moments juste avant l'accident? On dit que parfois il y a un trou noir, une sorte de mémoire qui s'efface.
Pas du tout, au contraire. On a le cerveau qui s'accélère, on a le cerveau qui se divise en deux. Il y en a un qui doit rester très calme et qui l'est, puisque j'étais quand même pilote de beaucoup d'autres engins à l'époque. Je faisais beaucoup de deltaplanes, de parachutisme, de parapente, de voltige, de planeur, en planeur, en avion. J'avais déjà fait de l'avion de chasse, j'avais commencé l'hélico d'ailleurs. Et donc il y a le pilote qui, pendant 10-12 secondes, essaie de réouvrir sa voile. Non pas désespérément, mais avec l'énergie du désespoir. J'étais persuadé que j'allais y arriver, d'ailleurs. Et puis, à un moment, j'ai touché. Et là où l'autre partie du cerveau intervient, c'est celle que je devrais évoquer pendant la chute, il y a une espèce de lenteur à revoir. Vous savez, un peu comme dans Les choses de la vie de Claude Sautet, où on voit Piccoli, mais très, très longtemps à mourir. Et il revoit tous les instants qu'il a vécu et tous les gens qu'il sait qu'il va regretter puisqu'il va passer de l'autre côté. Et ça, je l'ai vécu à la fois très lentement pendant la chute et qui s'est passé très vite, hein, 12 secondes, et en même temps, alors pour le coup, avec une lenteur très, très... C'est plus qu'une lenteur, quoi. C'est presque une éternité. Là, j'ai revu pendant 1h15, 1h30, le temps qu'on vient de me retrouver, tout le reste de ma vie. J'avais 33 ans.
C'est une vie qui défile tout d'un coup comme ça. Il y a des images, ça revient
sous une forme de cadence. C'est ça, par image, surtout quand on aime l'image comme moi. Ça vient... Voilà, on voit des visages, on revit des moments.
Mais on ne choisit pas.
Des éclats de rire. Non, le cerveau choisit pour vous. D'ailleurs, en règle générale, c'est souvent comme ça. On croit qu'on le dirige, mais il dirige à votre place.
Bon, cette voile de parapente, c'est un trompe-la-mort.
Bah, celle-là, oui, parce que c'était un prototype, que je voulais toujours aller plus haut, monter plus haut que les autres. Je cherchais tout le temps la sensation la plus forte et un jour, la réalité m'a rattrapé. Mais le fait de faire du parapente, ce n'est pas trompe-la-mort du tout. J'ai fait du delta pendant 15 ans, il ne m'est jamais rien arrivé. Je fais de la moto depuis 40 ans et ce n'est pas parce que j'ai eu un accident de moto il y a 5 ans que je me suis arrêté d'en faire. Je suis venu en moto pour vous rejoindre et je repartirai en moto et je ne suis pas prêt de m'arrêter, je peux vous dire. Donc, il n'y a pas un côté trompe-la-mort du tout. Hein. Je n'ai pas du tout cherché à abréger ma vie, absolument pas.
Mais la voile était dangereuse, en fait. La voile était dangereuse.
Ah, la voile était... Oui, elle a tué à peu près tous ceux qui l'ont essayé. Donc, j'en ai rare rescapé, sinon peut-être même le seul.
Mais elle vous, le saviez, Sylvain Ogier, qu'elle était dangereuse.
Et oui, je faisais des essais d'engins limite. Je faisais un peu de Formule 1 en amateur. J'essayais des courses, j'essayais des voitures et des motos de course. Je faisais déjà pas mal d'avions de chasse. En voltige, je prenais pas mal de risques. J'aime bien les sensations, j'aime bien prendre les risques. Je déteste la sécurité et la tranquillité. Alors pour un anxieux comme moi, ça paraît paradoxal, mais c'est ma façon à moi de combattre cette anxiété que j'ai depuis que je suis né. Et ben, je vais vers mes phobies et du coup, je m'aperçois que finalement, j'ai pas si peur que ça.
Vous tentez le diable, en fait, hein. Vous avez passé votre vie à tenter le diable.
J'ai passé ma vie à chercher à prendre des risques pour vivre des sensations fortes et avoir l'impression de vivre plus fort. C'est pas tout à fait la même chose.
Mais avec l'idée quand même que sa vie se joue à quelques petits instants qui vous échappent complètement.
Oui, forcément, ouais. Il y a des moments où, la preuve, voilà, il y a des moments où ça vous échappe, mais ça faisait quand même 30 ans et plus que très tôt, moi, j'ai mis des ailes sur mon vélo, j'ai essayé de décoller, ça a raté, je me suis refait tout les dents devant, et si je vous parlais, mais ma mère était désespérée, de toutes les bêtises que j'ai pu faire en sautant du plus haut rocher possible, le plus près possible de l'endroit où les pieds touchent le sol quand vous sautez dans l'eau et que vous vous dites « Ah, j'ai juste touché, mais je me suis pas fait mal ». Et en fait, je me suis couturé de partout. Oui, oui, j'ai des points, des cicatrices dans tous les coins. Bon, et un jour, c'était le gros accident, lourd. Et je m'en suis très bien remis. Hein. Je devrais être amputé. Je devrais normalement être dans une petite chaise. Mon bras devrait plus marcher. Enfin, après, j'ai pas mal de volonté. Je suis assez têtu, je dois dire. Et j'aime pas beaucoup rester sur un échec. Donc, je rebondis. Et c'est un peu le thème du livre, d'ailleurs. C'est pas pour me raconter que j'ai fait ce livre. C'est pour dire à tous ceux à qui ce genre d'accident peut arriver, et Dieu sait qu'il peut y en avoir beaucoup d'autres, d'accidents de santé, hein. Ça peut être un cancer. Souvent, le cancer est le signe. D'ailleurs, le corps somatise. Hein. Le corps parle et dit quelquefois stop. Ça peut être un arrêt cardiaque, ça peut être mille et mille choses. Et plus on avance dans la vie, plus ce risque d'accident arrive. Je crois sincèrement que si on a une volonté en soi de vivre, d'aimer la vie, eh bien, il y a des forces qui sont en nous qui nous permettent de rebondir plus haut. Et professionnellement, c'est la même chose. Moi, je n'ai jamais cherché la sécurité dans ce métier. J'ai toujours voulu m'éclater, me faire plaisir, enfin m'éclater au sens figuré du terme. Et quand une aventure est terminée, hop, je passe à autre chose. Je ne vous dis pas que c'est facile. C'est pas la facilité, mais c'est au moins le moyen de mener sa vie en rencontrant les gens qu'on a envie d'aller voir, de découvrir d'autres milieux. Et moi, j'ai pas vécu pour la télévision. D'ailleurs, je n'ai même pas cherché à en faire. C'est elle qui est venue me chercher. Et puis un jour, elle m'a déposé sur le bord de la plage parce qu'elle avait plus besoin de moi. Je me suis très bien passé d'elle. Hein. D'ailleurs, je l'ai pas, je la regarde pas, je l'aime pas. Donc le problème est simple.
Vous ne regardez pas la télé ?
Non, je l'ai jamais eu. Mes parents l'avaient pas. Je ne me suis pas acheté un poste de télé quand je me suis installé avec mes copains et je me passe très bien de télévision. Et croyez-moi, on vit très très bien sans.
On n'est pas tous égaux quand même devant l'épreuve, hein, Sylvain Ogier, parce que là, vous avez trouvé les ressources en vous et vous allez le raconter pour sortir d'un accident qui aurait dû vous coûter la vie. Vous êtes allé puiser dans votre fort intérieur, mais on peut se laisser aussi aller à la débandade, à la désespérance.
Ah non, mais j'ai fait
ça ne s'invente pas.
Ça se travaille. Socrate disait il n'y a de vrai travail que le travail sur soi. J'ai fait 15 ans de psychothérapie. Hein. Mmh. C'est pas venu tout seul non plus. Donc c'est déjà, il faut avoir la volonté d'y aller. Ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. C'est une grosse discipline. C'est quelquefois une grande souffrance parce que ça fait remonter des choses qui sont dans le subconscient. Par définition, qui dit bien son mot, dont on n'est pas conscient, qui guide 80% de nos actes. Hein. Donc, on a intérêt à bien se connaître. Quoi. Donc, c'est le gnotis et autone des Grecs. Hein. Je ne suis pas allé chercher très loin. Enfin, si, je suis allé chercher il y a 4000 ans. Je faisais déjà du grec à l'époque, quand j'étais lycéen. Et j'avais compris qu'il fallait aller chercher au fond de soi-même et nulle part ailleurs les forces qui sont en nous. En revanche, ce que j'ai découvert grâce à cet accident-là, c'est qu'il faut demander de l'aide aux autres. Il ne faut pas hésiter à dire au secours. Au secours à la bonne personne. Et puis après, s'établit l'échange. Et le jour où on a compris que c'est dans l'échange que se fait la part divine qu'il y a en chacun d'entre nous, sans qu'il y ait... C'est tout à fait laïque ce que je vous dis. Hein. C'est cette partie qui est plus grande, ce qu'il y a en nous de plus grand que nous qui nous dépasse. Voilà, ça existe, c'est à l'intérieur de nous. C'est ça la foi, c'est croire à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Après, chacun y met le mot qu'il veut, la croyance qu'il veut. Moi, je sais qu'il y a une force à l'intérieur de moi, comme il y a une force à l'intérieur de vous et de chaque être humain que je rencontre. À nous d'établir le contact et de faire que l'échange fasse naître la vie, voilà.
Alors, vous racontez ces minutes, justement, où après votre accident, vous portez le regard sur vous-même en vous disant que vraiment, là, c'est grave ce qui m'est arrivé. Je m'en suis tiré in extremis, mais je ne sais pas si je vais encore continuer à vivre parce que ça dépend des secours qui vont arriver. Là, repasse le film de votre vie. Est-ce qu'à ce moment-là, on se dit, est-ce qu'on est prêt à comparaître devant le Très-Haut à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on se dit, Sylvain Giez? Parce que quand même, si on n'était pas venu vous chercher, c'était fini.
Oui, c'était fini. Alors, je ne me suis pas tellement posé la question de qu'est-ce qui va se passer après. Je ne me la pose d'ailleurs toujours pas. J'en ai beaucoup parlé avec Sœur Emmanuelle, qui est devenue une amie ensuite. Et elle me disait, tu sais, ne cherche pas... Un jour, je me dis, est-ce qu'on peut vraiment croire en Dieu, Madeleine? Allez, sérieux, on est hors antenne, voilà. Et elle m'a répondu, si tu ne m'avais pas déjà trouvé, tu ne me chercherais pas. En fait, ce qui est la philosophie d'ordre pascalien, hein, pascalienne, enfin, c'est la philosophie pascalienne, quoi. Donc, elle m'a dit, toi, tu te compliques trop la tête, tu te poses trop de questions, cherche pas à savoir si tu peux croire ou pas. De toute façon, tu n'as pas, nous n'avons pas, nous les êtres humains, d'éléments suffisants pour obtenir la réponse. Tous les grands scientifiques le disent d'ailleurs, Einstein l'a dit, enfin, un jour, ce grand savant dont j'oublie le nom... à qui je posais la question, ça va me revenir, je lui disais, pour vous, Dieu, qu'est-ce que ça représente? Et il m'a dit, je vais vous répondre en trois mots, vous, enfin Dieu, c'est vous et moi maintenant. Voilà, c'est Jacquard, Albert Jacquard m'a dit ça. Et d'ailleurs, juste après, il a écrit un livre qui s'appelait Dieu, point d'interrogation, où il reprend le « Je crois en Dieu » et il le reprend à l'aune de la science. Et Dieu sait que cet homme est savant. Et c'est absolument fascinant. Donc, pour en venir à cette phrase très simple, Sœur Emmanuelle m'a dit, mais arrête de te demander ce qui se passe, ce qui va se passer après. De toute façon, tu ne pourras pas le savoir. Personne n'est jamais revenu pour le dire. Bande-toi à aimer. Voilà. Si tu aimes les autres, eh ben, c'est comme si tu croyais. C'est même aussi bien, c'est même sans doute mieux. Le curé d'Ars avait une phrase formidable. Il disait, quand j'arriverai au ciel, s'il n'existe pas, si Dieu n'existe pas, je serai bien attrapé. Ça me fait beaucoup rire. Je serai bien attrapé. Mais je ne regretterai pas tout l'amour que j'ai donné sur la terre. Voilà, ça c'est ma façon à moi de voir la vie. Alors ce qu'il y a après, je ne sais pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est là, maintenant, ici, maintenant, et puis demain. Voilà, puisque ce qui est derrière nous ne nous appartient plus. Le passé est passé, on n'y reviendra pas, ce n'est pas la peine. C'est un mur de granit. En revanche, nous pouvons agir sur l'avenir. Et agir sur l'avenir, ça veut dire être bien dans le présent. Puisque ce qui va se passer, ce que nous serons dans 5 ans, dépend de ce que nous sommes aujourd'hui, des choix que nous faisons aujourd'hui, ou des rencontres que nous faisons aujourd'hui. Donc l'avenir est immédiatement dépendant, lié à notre présent immédiat. Le vôtre comme le mien, comme de tous ceux qui nous écoutent en ce moment, comme de tous ceux qui vivent à la seconde où nous parlons. Voilà.
Donc c'est un éloge un peu de l'instant aussi.
Ah oui. Ah oui, l'instant est une, le présent est une très frêle passerelle. C'est très très frêle, c'est très fragile. Alors si on commence à le surcharger des regrets d'autrefois et des inquiétudes de l'inconnu à venir, mais la passerelle s'écroule. C'est comme ça que les enfants ont des dépressions. Je suis assez bien placé pour vous en parler. Je sais ce que c'est, je suis passé. Mais non, il faut vivre le présent dans la seconde. Il faut être dans la seconde. Il faut être très présent au présent justement.
Sylvain Augier, la dépression justement. Quand on vous voit à la télé, c'est vrai, on n'imagine pas du tout que Sylvain Augier est dépressif. Vous êtes dépressif?
Non, je ne suis pas dépressif. Je l'ai été à une époque. Ce qu'il y a, c'est que je l'ai très bien caché. C'est que le métier que je fais est une excellente thérapie. Parce que faire parler d'autres personnes, c'est déjà s'oublier soi-même, ce qui est déjà un très bon début pour la dépression. Et l'autre façon de se soigner d'une dépression qui est quand même une sale maladie et qui est quand même bien répandue dans nos sociétés développées, dites de progrès, où l'avoir a plus d'importance que l'être, j'insiste là-dessus parce que ça me frappe de plus en plus, eh bien, quand on est obligé de sourire à des caméras, eh bien, on oublie un peu qu'on ne va pas bien. Après, on ne va plus bien. Mais voilà, je suivais un traitement antidépresseur. Et puis surtout, mon vrai traitement, c'était un ou deux rendez-vous par semaine pendant des années hein, pour me soigner de ça, pour comprendre pourquoi j'étais aussi mal. Et puis génétiquement, malheureusement, j'ai été mal loti.
Il y a votre père.
Ouais, mon père était très dépressif et son père l'était aussi. Je me suis dit, bon, bah, c'est une fatalité, ça va me tomber dessus aussi. Et le jour où j'en ai eu une, en sortant de l'hôpital après que tout était réparé, d'ailleurs, donc 2 ans et demi après quand même, hein, l'accident, ce n'était pas un petit accident. Quand tout était reparti, je m'étais juré de refaire quelque chose dans ce métier. À l'époque, je faisais de la radio sur France Inter. Et là, en l'occurrence, la radio est venue. Donc, on a inventé Faut pas rêver avec Georges Pernoud. Puis ensuite, la carte au trésor a démarré. Et c'est là que je me suis pris une énorme claque derrière la nuque. C'est comme ça que ça arrive. Ça vous arrive du jour au lendemain, vous ne savez pas pourquoi. D'un instant sur l'autre, plutôt. Et d'un seul coup, vous êtes en dépression. Mais vous dire pourquoi, comment, par quel mécanisme ça passe, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il faut absolument s'attaquer à la racine du mal tout de suite, quoi. Il ne faut pas se bourrer de médicaments, attendre que ça passe et se dire « je suis dépressif à vie, je ne suis pas maniaco-dépressif. Je suis quelqu'un qui s'est tapé une bonne déprime, comme plein de gens qui prennent un coup sur la tête. » Souvent, d'ailleurs, c'est après qu'on s'en soit sorti que ça arrive. Que
Alors voilà, justement. Oui.
Il n'y a pas de généralité.
Ce n'est pas arrivé tout de suite. Une fois que vous aviez eu l'angoisse de perdre votre pied.
Ah, pas du tout.
C'est arrivé bien plus tard.
Oui, oui. J'ai mis toutes mes forces.
Ce qui est surprenant un peu quand même. Hein.
Oui, c'est vrai. C'est surprenant, mais quand on y réfléchit après coup, moi aussi, ça m'a surpris sur le moment. Je me suis dit, mais maintenant que tout va bien, tout est reparti, je suis de nouveau debout, je boiterai à vie, j'ai une douleur à vie, certes. Bon, mais voilà, je vis avec et ça continue encore aujourd'hui et ce sera comme ça jusqu'à la fin. Mais... curieusement, c'est le moment où l'esprit lâche. C'est-à-dire qu'on met toutes ses forces mentales à se reconstruire. Et d'ailleurs, le corps se reconstruit en même temps que les chirurgiens vous aident à le faire et que vous vous aidez aussi à le faire. Parce qu'il y a un moment où les chirurgiens, ils ne peuvent plus rien pour vous. Hein. Même les kinés vous disent à un moment, bah maintenant, si vous voulez remarcher, bah, il n'y a que vous, il n'y a que votre volonté. Donc la ténacité joue énormément. Et ben, du jour où je n'ai plus eu à fournir cet énorme effort, parce que ça en est un, de se remettre debout et de repartir dans la vie, qui est un... Moi, j'ai l'impression d'être comme un papillon scotché sur un mur, quoi. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui a besoin de... Vous voyez, je parle vite, j'ai besoin que ça vive, quoi. Quand c'est lent, je m'ennuie, et quand je m'ennuie, c'est mauvais signe. C'est pour ça que je change aussi vite, d'ailleurs, de boulot, qu'un coup, j'écris un bouquin, un coup, je produis un film, un coup, je fais une émission de télévision. Enfin, je varie les plaisirs, quoi. Tant qu'à être là, autant en profiter. Et en faire profiter les autres, bien sûr. Partager, parce que si on ne partage pas, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun but, aucun sens. Mais c'est quand on n'a plus besoin de fournir un effort pour se reconstruire physiquement, sur un lit d'hôpital, que d'un seul coup, ça vous tombe dessus. Et ça m'a beaucoup frappé, ça. Je me suis dit, tiens, c'est curieux, les gens qui perdent leur boulot font une dépression dans la foulée, mais peut-être parce qu'avant, ils étaient occupés à autre chose. Et si l'esprit fuit en permanence l'essentiel, ben, en fait, on se fuit soi-même, quoi. C'est le jour où on est face à la glace, face au miroir, face à soi, que là, pour le coup, on peut se prendre une grosse torgnole, et la torgnole vient de l'intérieur de nous. Hein.
Vous racontez qu'avant de passer sur scène, hein, si on peut dire, avant d'enregistrer, vous étiez resté tapis dans une couverture à l'arrière d'une voiture pendant 4 heures avant d'oser entrer dans un studio.
Bah, c'est-à-dire que quand je présentais Faut pas rêver, qui était enregistré puis en direct, ma seule façon dans cette période de dépression, alors que Faut pas rêver venait de commencer, l'émission qui à l'époque passait derrière Thalassa, j'arrivais 4-5 heures avant. Je me garais 2 ou 3 rues du studio, je m'enfouissais sous des couvertures et je dormais. C'était mon seul remède pour arriver à avoir de l'énergie, en gros pour recharger les batteries. Quand je me réveillais, je mettais mon réveil bien sûr, enfin ma montre réveil, même un réveil matin d'ailleurs, j'avais de l'énergie, je mettais toute mon énergie à faire l'émission, à avoir ce que quelqu'un a appelé il n'y a pas longtemps votre éternel sourire. Je n'ai pas un éternel sourire, j'ai un sourire pour les caméras, voilà. Et puis quand la lumière s'éteint, ben, le pantin il tombe par terre, quoi, si jamais il n'est pas en bonne forme, on va dire. Mais c'est vrai que oui, je faisais ça. C'était ma méthode à moi pour avoir de l'énergie. Il en faut de l'énergie pour faire une émission de télévision, même de radio d'ailleurs. C'est plus facile en radio parce qu'il n'y a pas l'image. Et qu'en général, on est juste 2 ou 3 autour d'une table. Et voilà, c'est plus simple. La télévision, c'est plus compliqué. Il y a plein de techniciens, il y a des répétitions, il y a les lumières, il y a les... Ça bouffe beaucoup d'énergie, quoi. Mais pour faire une émission, en plus, qu'elle soit en direct ou dans les conditions de direct, c'est pareil. Moi, j'ai toujours voulu que ça soit cadré, qu'il n'y ait pas une minute de montage à faire dedans. Bah, c'est beaucoup d'énergie, oui.
Vous n'avez jamais annulé une émission ?
Jamais. Jamais. Et 3 mois après mon accident, j'ai demandé à Eve Ruggieri, qui dirigeait à l'époque les programmes de France Inter, de m'installer un studio dans ma chambre. Et elle m'a dit OK. Et j'ai fait mon émission de radio en direct.
De la chambre d'hôpital.
De ma chambre d'hôpital. Et j'ai créé une émission, d'ailleurs, qui s'appelait Chic Planète. Qui a été diffusé pendant des mois, quoi. Tout le temps où j'ai été immobilisé à l'hôpital, puis chez moi. C'était une petite console technique avec un technicien qui venait, qui branchait les fils et j'étais à l'antenne. Et c'est en entendant cette émission-là qui s'appelait Chic Planète et qui consistait à inviter, c'était facile hein, comme concept, j'invitais des gens qui avaient voyagé un peu partout dans le monde. Donc vous voyez, si vous êtes les écouter, quoi. Et c'est en écoutant cette émission-là que Pernoud, qui produisait Thalassa, s'est dit, tiens, et si on faisait un magazine sur l'évasion, je vais appeler ce mec-là dont j'aime bien le ton, la voix. Il m'a appelé, je lui ai dit, ben, dès que je sors de l'hôpital, j'arrive et on le fait. C'est devenu Faut pas rêver.
Mais ça s'est pas forcément très bien passé avec Georges Pernoud.
Ah bah 8 ans après, c'est comme les vieux couples, vous savez. Au début, vous trouvez les défauts de l'autre charmants, et puis 8 ans après, les défauts de l'un et de l'autre deviennent insupportables à l'un et l'autre. Et puis il y a des moments où il faut savoir tourner des pages. Et 8 ans, c'est long en télé, hein. Vous savez, j'ai fait 8 ans, faut pas rêver. 10 ans, la carte au trésor. Il y a un moment où on se dit bon bah maintenant, je suis arrivé à un rond-point, je sais le faire. Ils savent que je sais le faire. J'ai envie de passer à autre chose. Donc après la Après, faut pas rêver, je me suis encore un peu plus investi dans la carte au trésor. Et puis après la carte au trésor, j'ai survolé toute l'Europe en hélico. Et puis après l'Europe, je me suis mis à faire des DVD. Et maintenant, là, je suis parti sur 2 ou 3 autres projets, mais qui sont sur des beaucoup plus grands écrans que la télévision, qui sont bien plus excitants que ce que j'ai vécu jusqu'à présent, évidemment.
Quelles seront les énergies exploitées d'ici 2050 pour contrer la pénurie de pétrole ? Nucléaire, bois de chauffage, biosphère, géothermie ou encore hydrogène, Bernard Tissot, membre de l'Académie des sciences, nous donne les détails de ces nouvelles énergies du futur sur Canal Académie, une émission en libre écoute et libre téléchargement.
L'instant où tout a basculé aux éditions Carnet Nord, Sylvain Gier, homme de télévision, de radio, qui nous parle de son amour de la vie, c'est cet amour de la vie, cette capacité qu'il a eue à l'épuiser en lui, qui malgré cette épreuve redoutable qui lui est arrivée le 24 août 1988, cet accident de parapente, il y a plus de 20 ans, qui lui a permis de surmonter toutes les épreuves. Et il en a eu des épreuves, Sylvain Gier. La dépression, aussi la dépendance aux médicaments, à la morphine en particulier.
Bah, c'est-à-dire que quand vous rentrez à l'hôpital et que vous êtes dans l'état où j'étais, comme n'importe quel accidenté de la route, n'importe quel piéton qui se fait renverser, vélo, enfin bref, accident grave, on vous met sous morphine tout de suite. Parce que la douleur est tellement épouvantable, maintenant on sait la soigner, on vous met sous morphine, on vous met sous morphine longtemps, bah, si la douleur dure longtemps. Le problème, c'est que moi, quand je suis sorti de l'hôpital, 2 ans après mon accident, j'ai pas pu supporter la douleur sans continuer la morphine, et je suis devenu addict à ce produit qui est redoutable. Parce que le double problème de la drogue, c'est la morphine, soyons très clairs, la morphine, c'est de l'héroïne propre, c'est le même, c'est un opiacé, voilà. Donc il y a 2 facteurs qui jouent, c'est l'accoutumance, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'en prendre pour faire que la douleur disparaisse et que vous vous sentiez bien, parce que la douleur est quelque chose d'insupportable, absolument insupportable, il faut y être passé pour savoir ce que c'est. Demander à une femme qui a accouché si elle a envie de revivre la même douleur, ça fait partie de la douleur est quelque chose d'odieux, d'insupportable.
Donc c'était la douleur liée aux greffes que vous avez eues pour garder votre pied en particulier.
Voilà, moi j'ai pas voulu être amputé, donc je souffrais terriblement du pied, je souffre encore aujourd'hui de la même douleur que celle qui me faisait prendre de la morphine. C'est-à-dire que c'est quand même très mental, hein, c'est quand même dans la tête. Mais à l'époque, j'étais pas aussi fort qu'aujourd'hui. Alors il y a l'accoutumance, donc vous avez besoin de votre dose à peu près à heure régulière pour obtenir le même effet. Mais il y a un truc beaucoup plus vicieux que ça, c'est l'assuétude. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'augmenter la dose pour obtenir le même effet. Et bien très vite, vous devenez toxicomane. Même si vous n'êtes pas né dans la rue et que vous n'avez pas commencé à dealer quand vous aviez 15 ans parce que vous ne saviez pas quoi faire, je prends un raccourci très rapide. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont toxicos parce qu'ils ont besoin de leur drogue pour pouvoir supporter la douleur qu'ils n'arrivent pas à supporter sans ce produit.
Et le médecin ne régule pas la morphine ?
Ben, vous savez, après, quand vous devenez toxico, vous vous débrouillez pour trouver un médecin, puis un autre, puis un autre. Moi, il se trouve qu'il y en a un, comme par hasard, qui s'est trouvé sur mon chemin, qui était un anesthésiste, qui, j'espère, n'existe plus aujourd'hui ou qui s'est fait prendre, j'en sais rien, qui, au départ, m'a dit « j'ai un centre antidouleur, venez me voir ». Il m'a donné des ampoules, il m'a injecté des ampoules qui, effectivement, ont fait disparaître la douleur comme par enchantement. Et quand je lui ai demandé combien je vous dois, est-ce que c'est remboursé, enfin, les questions habituelles, il m'a dit « non, mais vous inquiétez pas, vous ne me devez rien ». Et là, j'aurais dû me méfier. Je ne me suis pas méfié. Et puis, j'étais tellement content de ne plus avoir mal que je ne me suis pas posé trop de questions non plus. Je suis revenu 15 jours après, puis une semaine après, puis de plus en plus souvent. Et assez rapidement, il m'a dit, là, aujourd'hui, ça ne peut plus être gratuit. Là, ça va être payant. Et c'était sacrément payant, je peux vous dire. Je ne me souviens plus très bien des ordres de grandeur, mais j'y ai mis pas mal d'argent de poche. Et puis, ça a duré quelques semaines, pas très longtemps, 3-4 mois. Et là, j'ai réalisé que j'étais en train de basculer, mais alors vraiment du mauvais côté. La glissade devient vertigineuse. Hein. Et il a fallu que je jette tout d'un seul coup. Il faut tout arrêter d'un coup, net. Un peu comme la cigarette, un peu comme l'alcool, ce sont des drogues légales.
D'accord, donc pas de désaccoutumance progressive, ça n'existe pas, ça ne marche pas.
Non, en tout cas pas chez moi. Ouais. Peut-être que si, il y a des cliniques qui vous mettent sous méthadone, qui vous met en cure de désintoxication. Moi, je n'ai pas envie du tout de revenir dans une clinique. Et puis, la désintoxication à la drogue, je ne me sentais pas dans ce profil-là. Quoi. Je me suis dit, allez mec, tu as la volonté, tu vas le faire, demain tu vas t'en passer, tu vas bien en baver. Alors vous savez, le manque, il dure une semaine, hein. pour n'importe quelle drogue, ça dure une semaine. Que ce soit la cigarette, que ce soit l'héroïne, que ce soit la cocaïne, enfin, tous ces machins qui sont autour de nous, qu'ils soient légaux ou pas légaux, qu'on puisse les acheter pour cher ou pas cher, enfin, tout ce que vous voulez, au bout d'une semaine, le corps se déshabitue. Il y a une telle rotation du sang dans l'organisme qu'au bout d'une semaine, le corps n'en a plus besoin.
C'est juste une semaine qu'il faut tenir.
Exactement une semaine. C'est 8 jours. Mais
en revanche, temps, c'est très long.
C'est très long, ouais, ça passe vite en même temps. Hein, ouais. Vous savez, vous ligotez à votre fauteuil, vous essayez de pas trop bouger, et puis, ou au contraire de bouger beaucoup comme vous voulez, à vous de choisir la méthode. Vous partez au bord de la mer, vous prenez des bons bouquins, par moment vous en bavez un maximum, mais vous savez qu'une semaine après ce sera fini. Puis une semaine ça devient vite 6 jours, 5 jours, 4 jours, etc.
Qu'est-ce que vous avez fait vous? Alors justement pour
moi, je suis parti en tournage, j'ai profité de cette occasion, de l'occasion où je me suis dit il faut que j'arrête tout. C'était une période où je partais en tournage pour la carte au trésor au Maroc. Donc il était hors de question que j'emmène toutes mes doses sur moi. Donc j'ai tout jeté d'un seul coup et je me suis dit on verra bien là-bas. Et effectivement là-bas j'ai eu une crise de manque violente. J'ai eu 2 nuits épouvantables. Et puis après c'est fini, ça a été passé, ça a été terminé. Et puis comme j'étais obligé de faire mon métier, donc ces fameuses émissions qu'on faisait en hélico, et Dieu sait que j'aimais ça, j'adorais faire cette émission-là, parce que aussi j'adore faire de l'hélico, faut bien dire les choses comme elles sont. J'avais quand même un peu initié l'histoire pour faire de l'hélicoptère, et j'ai été servi pendant 10 ans. Après ça a été fini. Je vous dis pas que de temps en temps j'ai pas besoin d'un antalgique, mais non morphine, non opiacé, voilà. Pour calmer une douleur qui est trop violente. Et puis surtout, je m'économise. J'économise un pied qui est un petit morceau. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Il tient debout, il est à moi, mais voilà, je peux faire ça qu'être amputé. Mais bon.
Vous le sentez, votre pied?
Ah ben oui. Ah, j'ai mal tout le temps. Ouais, j'ai mal. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas le situer dans l'espace. Si ah oui. Je ne le regarde pas,
vous
je
sentez pas la douleur, mais vous ne savez pas qu'il est là.
Je sais bien qu'il est là à cause de la douleur, mais je ne sais pas si je marche sur quelqu'un ou sur une bordure de trottoir ou pas. Mais comme je roule en 2 roues, c'est facile. Je me gare exactement devant l'endroit où j'ai rendez-vous avec vous aujourd'hui. Et quand je vais repartir, je vais faire 4 mètres. Oui, je ne prends pas le métro, je n'ai pas à attendre l'autobus. Je ne peux pas rester debout dans un salon. Je m'assieds immédiatement. Je ne supporte pas. J'ai beaucoup de mal à aller attraper un TGV en courant. Ça m'est très difficile. Je ne peux plus courir. Alors, je peux encore faire du ski, je peux encore jouer au tennis. Nice, j'ai ressauté en parachute, je peux encore aller me balader sur un parc d'attractions avec mes enfants, mais après, qu'est-ce que je le paye, quoi? Je le paye cher. Je le paye en me reposant pendant une journée, 2 journées, à moitié allongé, en bouquinant, et je ne suis pas cassé pour autant, hein, mais je ne peux pas remarcher normalement.
Vous ne vous êtes pas dit, non, ça pour moi, Sylvain, ça c'est fini pour moi, je n'en ferai plus?
Je n'arrive pas à être comme ça. Non, j'ai 16 ans, je garderai 16 ans toute ma vie, j'espère bien que ça continuera comme ça. Je ne crois pas que ça puisse changer encore, c'est trop tard maintenant. Non, je suis de mon adolescence, j'y resterai, et je suis toujours aussi têtu, mais je boite. Bon, voilà, je boite et j'ai mal. Mais ce n'est pas ça qui me rend malheureux, vous voyez.
Pourtant, à plus de 50 ans, ça ressemble un peu quand même à des mémoires, non, Sylvain Augier?
C'est un récit de vie, vous voulez dire des mémoires, quoi, l'écriture de ce livre?
Dans le sens où c'est un retour un peu réflexif sur sa vie pour en tirer une leçon d'intérêt général?
Alors, c'est pas tout à fait. Non, c'est pas l'esprit. Quand l'éditeur des DVD avec qui je travaille, Renaud Delhomme, des éditions Montparnasse, m'a dit: Sylvain, écrivez votre vie, racontez votre vie, vous rendrez service à beaucoup de gens qui ne savent pas à quel point la volonté peut jouer, comment on peut s'en sortir et surtout de quelle façon on peut rebondir.
C'est ça.
Ce fameux mot de. Voilà. Mais c'est pas une thérapie pour moi. Hein. Moi, je m'en suis sorti il y a
bien longtemps. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais que c'était justement à destination du grand public. Les mémoires, ça sert aussi à ça. Ça sert à justifier un peu ce que l'on a été et comment on est parvenu à ce qu'on est.
Ouais. Vous pouvez penser à une question de quelqu'un qui m'a dit: vous êtes bien jeune pour avoir écrit vos mémoires. Parce que pour moi, mémoire, c'est mémoire d'outre-tombe, quoi. C'est Chateaubriand, hein, c'est une fois qu'on est mort. Là, je ne suis pas mort, je suis au milieu du parcours, au milieu du guet, on va dire.
C'est pour dire le contraire, justement.
Ouais, c'est ça, c'est pour dire on peut rester jeune toute sa vie. J'ai vu Sœur Emmanuelle jusqu'à 99 ans rester une jeune fille, quoi, une gamine. Une gamine qui en savait beaucoup sur la vie, mais qui était d'une joie de vivre et d'une gaieté incroyable, quoi. Incroyable. Et j'ai envie d'être comme elle, quoi. J'ai envie de lui ressembler. Ma grand-mère était pareille, hein. J'avais une grand-mère qui a vécu jusqu'à 105 ans. Et elle me disait: tu sais, Sylvain, ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons. Et elle le disait tellement doucement, tellement gentiment, comme les vieilles dames, comme les vieilles personnes savent le dire. On fait plus assez attention aux vieilles personnes autour de nous. Il faut bien les écouter, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais bon, on n'est pas dans ce modèle de société-là, donc organisons-nous pour retrouver les vraies valeurs, quoi, les vraies racines. Mais bon, voilà, c'est pas des mémoires au sens « je me raconte ». Je voudrais être utile... Utile est un mot important. J'aimerais bien être utile à la place que j'ai, dans le rôle que je tiens, avec le métier que j'ai choisi et que j'aime par-dessus tout, que je savais déjà que je ferais quand j'avais 13 ans. Je voudrais continuer à être utile. J'ai fait ce métier-là pour ça.
Comment est-on utile ?
Eh bien, en transmettant des messages, en se parlant en ce moment tous les deux, parce que j'espère que, même si ce message ne touche qu'une ou deux ou trois personnes, c'est pas grave, ça vaut la peine. Moi, je suis allé dans plein de salons pour présenter ce bouquin. Quelquefois, il y avait 10 personnes. Eh ben, même pour ces 10 personnes-là, j'étais content d'être venu. On est utile en partageant, en fait. En partageant ce qu'on a à donner, ce qu'on a à échanger, ce qu'on a dans la tête. Et puis, dans le partage, c'est dans le double sens, hein. Quelquefois, qu'est-ce que j'ai pris comme leçon au bon sens du terme ? Qu'est-ce que j'ai pu apprendre avec des gens ? Ça a été l'essence merveilleuse du métier que je fais, c'est que j'ai rencontré, quand j'avais 13 ans, je voulais faire radioscopie. Je disais, quand je serai grand, je ferai radioscopie. C'était textuel, au lycée. Et bien, j'ai rencontré les gens les plus extraordinaires, les plus intelligents qui soient, connus ou pas connus d'ailleurs. Hein. Il ne s'agit pas de people, hein. J'ai horreur de ce mot. Mais bon, voilà, puisque maintenant, ces magazines-là sont à la mode et se vendent bien, tant mieux. Mais enfin, on ne peut pas dire que le message philosophique soit très présent. Mais on est utile, il y a mille façons d'être utile. On peut aller dans un bidonville, on peut se mettre au service des autres dans une ONG, on peut l'être à MSF, Médecins du Monde. Enfin, en plus en France, Dieu sait qu'il y a des gens innovateurs en matière d'altruisme pour les Restos du Cœur sont nés ici. Les French Doctors, c'est une invention française. On est dans un pays extraordinairement généreux de la part des gens qui vivent, quelle que soit leur croyance, leur laïcité, leur... Il n'y a pas de...
Ce sont les missionnaires des temps modernes, un peu.
Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, je crois que si on ne partage pas... D'abord, le seul vrai secret du bonheur, c'est le partage. Donc, si on ne partage pas, on ne peut pas être heureux. Si on garde tout pour soi... On ne peut pas être heureux. Et puis, la grande erreur, c'est de croire qu'avoir, ça rend heureux. Ce n'est pas avoir qui est important, c'est être. Sœur Emmanuelle le raconte dans un livre que je ne tarderai pas à faire sortir. Me raconte qu'un jour, une de ses élèves lui disait qu'elle avait rencontré Onassis, qui à l'époque devenait multimillionnaire. Enfin, c'était le milliardaire de l'époque. Et qui lui a dit « J'ai raté ma vie ». Elle lui a dit « Mais attends, tu es sorti de Smyrne en flammes, tu avais perdu tes parents, tu es arrivé tout seul en Amérique du Sud et tu es devenu le milliardaire de la planète et tu dis « J'ai raté ma vie ». Et il disait « Ben oui, mais je ne suis pas heureux parce que les gens qui m'entourent sont des gens qui sont intéressés par l'argent que j'ai ou par l'argent qu'ils peuvent gagner grâce à moi et certainement pas pour ce que je suis moi. Et si c'était à refaire, eh ben, je préférerais vivre de façon beaucoup plus modeste, il disait pas forcément crever de faim, hein. Pas non plus être idiot, pas excessif, mais vivre de façon modeste, mais entouré d'amour, aimer les gens et être aimé d'eux. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que ça ? Donc c'est pas avoir qui compte, c'est être. Et ça, c'est la grande erreur de la société, du modèle société dans lequel on est, qui nous vient des États-Unis, puis qui vient du progrès de l'être humain qui... Voilà, c'est pas par hasard que sur n'importe quel dollar, vous remarquerez, amusez-vous un jour à lire ce qu'il y a écrit sur un dollar, un billet d'un dollar ou de 20 ou de 50, il y a écrit « In God we trust ». C'est pas compliqué, c'est écrit sur leur monnaie. Eux, donc, ça s'appelle le veau d'or, hein, dans les écritures. Voilà, on est dans cette société-là, donc essayons d'y échapper autant que faire se peut, profitons des bienfaits matériels que la société nous apporte, mais surtout ne nous laissons pas hypnotiser par « avoir, avoir, avoir », quoi.
Voilà. Alors, Sylvain J., est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience au Nicaragua, qui a beaucoup compté pour vous et qui a été marqué quand même par qui vous a marqué dans le sens où ça vous a fait peut-être atterrir sur certaines réalités extrêmement dures de la vie qui ont peut-être changé votre esprit un peu insouciant de l'époque, non ?
En deux mots, oui, j'avais 21 ans, c'était l'âge d'être incorporé au service militaire et pour lequel je m'étais d'ailleurs porté comme tout le monde volontaire, il ne s'agissait pas de dire je suis trisomique, je ne veux pas le faire. Hein. Donc je voulais même être élève officier de réserve, mais en même temps... que je me disais, j'ai pas envie de me faire raser la tête et de défiler en obéissant à des adjudants-chefs idiots. Donc j'ai trouvé un biais qui était de partir en coopération. Je me suis débrouillé pour trouver la bonne personne au ministère. Je suis assez débrouillard comme garçon, faut vous dire. Hein. Je suis pas très bosseur comme ça pour mes examens et tout, mais j'arrive toujours à trouver la petite astuce pour passer à travers. Et là, ça a été le cas. J'ai réussi à être nommé coopérant. Ça s'appelait VSNA, bon, volontaire au service national actif. Et je suis devenu attaché culturel de l'ambassade de France au Nicaragua. Je parlais pas un mot d'espagnol. On m'a envoyé dans un pays où...
Alors vous aviez dit le contraire. Hein.
Oui. Ah bah oui, ça quand on me dit est-ce que tu sais plonger, bien sûr je sais plonger. Est-ce que tu as déjà sauté dans l'avion, mais t'inquiète pas, c'est de la routine. Est-ce que vous parlez espagnol, mais bien sûr madame, je parle espagnol couramment. Ça pour bluffer, oui, ça c'est très bien. Ça, c'est du poker, hein, c'est tout. La vie, c'est souvent du poker menteur, quoi. Enfin bref, en tout cas, j'avais dit que je parlais espagnol couramment, ce qui était faux. Et puis j'ai appris très vite, hein, ça prend 3 mois. Hein, si on fait un petit effort, ça va vite. Et je me suis retrouvé, coup de chance pour moi qui voulais devenir journaliste, dans un pays où la guerre civile venait d'éclater. C'était l'époque de Somoza, c'était donc en 76, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Et au même moment, en pleine guerre civile, pour un apprenti journaliste, c'était quand même service royal au bar. Hein. J'ai donc vu les plus grands reporters de guerre, j'ai vu les grandes télévisions américaines débarquer. Et en plus, il y a eu des éruptions volcaniques, un tremblement de terre. Donc j'ai rencontré Haroun Taziev, je suis descendu dans des volcans avec lui. Puis j'étais adjoint de l'attaché culturel, donc il fallait que j'accompagne tout le monde partout, vous comprenez. Bien obligé, hein. J'allais pas rester derrière un bureau. Et puis pourquoi faire, en plus, dans une ambassade où il y a quatre personnes, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de sens au milieu d'une guerre civile. En tout cas, voilà. En revanche, ce que j'ai vu, c'est la mort de près, quoi. La mort, la mienne ne me faisait pas peur. Elle était à 20 ans. On sait très bien que nous sommes tous invincibles. D'ailleurs, je pense que ça peut durer très très longtemps, cet état d'esprit-là. C'est un peu une abstraction, la mort. Hein.
Celle d'un gamin en particulier qui voulait se réfugier.
Un jour, voilà, j'habitais avec des copains dans une maison. Et puis, on entend une ou deux jeeps de l'armée de Somoza qui arrive, et deux gamins qui courent vers notre maison. Il y en a un qui a obliqué dans les bois et qui s'est échappé, et l'autre, il a été abattu devant nous d'une rafale de mitraillette dans le dos, et il avait 20 ans. Et là, d'un seul coup, j'ai eu ce... Et puis les militaires se sont barrés, ils avaient fait leur boulot. Et là, je me suis retrouvé d'un seul coup en face de ce gamin qui venait de mourir, qui avait mon âge, et j'ai compris que la mort n'était pas une abstraction, quoi. C'est une réalité. Alors, la nôtre en est une abstraction, parce que par définition, ni vous ni moi ne le serons quand ça nous arrivera. Mais en revanche, celle des autres, quand on la voit de près, qu'elle est aussi violente et aussi injuste, là, pour le coup, ça vous met du plomb dans la tête, ouais. Ça m'a... J'ai perdu beaucoup d'insouciance de mon adolescence à cet instant-là, qui m'est resté encore aujourd'hui.
Le coffre de votre voiture ?
J'avais une grosse bagnole américaine à l'époque, parce qu'on les achetait pour rien du tout. Les Américains évacuaient tout, donc on achetait tout ce qu'on voulait en poignée de ce fameux billet de dollar. Et j'ai mis le corps du gamin dans la voiture, ouais. Je l'ai emmené à l'ambassade et je me suis juré que ce ne serait plus un cadavre que je transporterais dans ce coffre, mais des jeunes gens vivants pour leur sauver la vie. Et pendant plusieurs mois, c'est ce que j'ai fait. Jusqu'au jour où je me suis fait bien taper sur les doigts et où on m'a menacé de me rapatrier en France. Et je l'ai échappé belle un jour où les gardiens m'avaient repéré. Ils avaient repéré ma voiture quand même. Et un jour, on m'arrête, en pleine nuit d'ailleurs. Je dis un jour, c'était en pleine nuit. Les types m'arrêtent, me font descendre et balancent une rafale comme ils avaient l'habitude de le faire. C'était une dictature, hein. Faut resituer ça, une dictature sud-américaine comme n'importe quelle d'ailleurs dictature. Le type il prend pas de gants, hein, ouvrez votre coffre, et avant même que vous ayez le temps de dire je prends la clé, boum, il met une rafale dans le coffre, et heureusement il y avait personne à ce moment-là dans mon coffre. Ce jour-là j'ai eu très peur, une peur rétroactive parce qu'on n'a pas eu le temps d'avoir peur sur le moment. Et je me suis dit, peut-être qu'un peu de prudence serait de mise. Je me suis aperçu qu'en fait, dans les 20 ans qui ont suivi, j'ai continué à ne pas être prudent. Je ne suis pas sûr d'être très prudent, quoi. Voilà. Si, peut-être juste assez pour être encore en vie aujourd'hui.
Alors juste assez, en particulier au Nicaragua, où vous avez plongé dans un cratère où c'était particulièrement dangereux, puisque c'était totalement opaque. Et oui. Là, vous n'aviez jamais fait de plongée quand même. Là, vous êtes passé tout près. Hein.
Alors, un cratère, c'est une lagune de volcan. Hein. Ce n'est pas un lac de lave. Des lacs de lave, j'en ai vu, mais ça, on plonge pas dedans.
Oui, bien sûr.
Là, pour le coup, là, on n'en revient pas. Non, c'était une lagune.
Donc, avec Haroun Taziev, vous n'étiez pas loin, justement, puisque aurait pu très bien monter. Et...
On a approché un lac de lave qui montait de 10 mètres, qui redescendait, qui remontait de 15, etc. Mais avec Taziev, je me disais, il ne peut rien m'arriver. En fait, il me disait, tu sais, dans 3 minutes, on ne sera plus là. Bon, ben voilà, il faut l'accepter. Hein. Sinon, on ne descend pas dans le cratère. En l'occurrence, là, c'était une lagune de volcan. C'est-à-dire un ancien cratère qui est rempli d'eau, mais l'eau est très très noire, quoi. Elle est complètement opaque. Au bout de 2 mètres de profondeur, vous ne voyez plus rien. Et là, je suis descendu à 70 mètres avec un garçon qui avait des bouteilles, qui m'a dit « t'as déjà plongé ?» Ben oui, bien sûr, évidemment. Et puis, le noir à 70 mètres, contrôlant mal ma respiration parce que je n'avais pas l'habitude, je n'ai même pas vu la poignée que je tirais. Et au lieu de passer sur la réserve, parce qu'il était temps que j'y passe, lui économisait beaucoup mieux ses bouteilles, mais je ne le voyais pas, quoi. On ne se voyait pas du tout. Moi, j'ai gonflé ce qu'on appelle le fanzi, c'est-à-dire le gilet, qui m'a fait remonter direct à la surface comme un bouchon de champagne en 5 secondes, quoi. Et là, pour le coup, c'est on meurt d'hypoxie, enfin, on respecte pas les paliers de décompression et le sang se met à bouillonner parce que la pression de l'azote n'est pas la même à l'intérieur du sang à la surface qu'à 70 mètres de profondeur. Et si lui ne m'avait pas redescendu à la profondeur à laquelle j'étais en me faisant respecter les paliers et en passant le respireur, je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc d'oxygène de sa bouche à la mienne, bah, je ne serais encore pas là pour vous le raconter. Quoi.
Décidément, Sylvain Augier. Que d'avertissement.
Je remplis bien ma vie. Non. Quoi. Oui, c'est des avertissements
sans frais. En même temps,
vous dites,
la providence, voilà, ça sera le jour, ça arrivera le jour où ça devra arriver.
Voilà, c'est ça. Il ne faut pas trop tenter le diable non plus, pour reprendre d'autres formules. Mais il faut garder... On a un instinct de conservation qui est assez développé quand même. Hein. Mais on apprend à devenir affûté. C'est comme quand on roule en moto. Vous savez, on dit qu'il n'y a pas de bons motards, il n'y a que des vieux motards. Moi, il y a 40 ans que je fais de la moto. J'ai passé mon permis moto à 16 ans. J'ai tout de suite eu une grosse moto. Et 40 ans après, je suis encore vivant. Donc, je ne suis pas un bon motard, je suis un vieux motard. Dans l'aéronautique, c'est la même chose. Il n'y a pas de bons pilotes avec des vieux pilotes. L'important, c'est de vieillir.
Est-ce qu'il y a une sensation que vous regrettez de ne pas avoir vécu dans une discipline extrême, éventuellement?
J'aimerais bien faire un tour en navette 5-6 fois. Ouais, ce serait pas mal. Mais voilà, il ne faut pas avoir de regrets sur des choses. Ça ne m'arrivera pas. Je le souhaite à mon fils, ce qui est une bonne façon de se consoler. Je me dis, lui, il le fera. Moi, j'ai volé en avion de chasse, j'ai fait du Mirage 2000, du Mirage F1 à la Patrouille de France. J'ai piloté des avions de chasse, des Mirage 3, un peu toutes les sortes. Je me souviens d'un vol de nuit. On est monté à 17 000 mètres en 50 secondes au ras du sol en post-combustion. Et en vol de nuit à la verticale de la Camargue, au-dessus d'Istres, on voyait les lumières de Naples, de Barcelone, de Marseille, et je voyais derrière moi celles de Limoges. Et on voyait très bien Toulouse aussi. Et je me suis dit quand même, waouh, journaliste, c'est pas mal comme métier. Je le savais avant, mais là... Et il n'y a encore pas de si longtemps, j'ai produit un documentaire pour Arte avec 3 Mirage 2000, l'avion du président de la République, un AWACS, un ravitailleur en vol. Tout ça sur un pari avec des copains. Alors je leur avais dit, je vous parie que je vous ferai voler. Je vous ai fait voler en apesanteur, je vous parie que je vous ferai voler en avion de chasse. Et j'en ai fait un 26 minutes qui a été diffusé par Arte à plusieurs reprises, qui a fait l'objet de pas mal de reportages, qui a été rediffusé dans plusieurs chaînes dans le monde. Et chaque fois, j'ai l'impression de m'amuser, de continuer à être un môme et finalement réaliser des rêves. Et finalement, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie, hormis aimer les autres, que de réaliser ses rêves, hein, de les voir se réaliser, quoi. Là, en ce moment, j'ai 2 ou 3 idées qui me trottent dans la tête. Je pense que je vais les réaliser. Il suffit d'être tenace, quoi, d'être têtu.
Quelques-unes de ces idées à partager.
J'avais envie de raconter l'histoire des Kraft, Katia et Maurice Kraft, 2 volcanologues qui ont disparu il y a une quinzaine d'années.
Au Japon.
Ouais, c'est ça. Mais je vois que vous connaissez l'histoire. Ce sont les successeurs de Taziev, puis ils ont disparu un jour après avoir eu 130 ou 140 éruptions chacun, ce qui est unique dans l'histoire de l'espèce humaine. Et ils ont disparu. Et là, je fais un docu-fiction avec Boréal, Frédéric Fouja, qui est spécialisé là-dedans. Et on verra ça sur France 2 début 2010. Et puis au Japon, aux États-Unis, sur une quinzaine d'autres chaînes dans le monde. Ce qui nous permet d'avoir les budgets nécessaires à la reconstitution de ce qui s'appelle un docu-fiction, un docu-drama. Et puis après, il y aura des DVD, des bouquins. Et entre-temps, j'ai eu une autre idée sur laquelle je suis en train de travailler, qui est en passe d'aboutir, qui sera signée d'ici peu. Et alors là, qui est encore plus grandiose, grandiloquente que celle-là, et qui m'éclate rien qu'à l'idée de le faire. Mais c'est toujours pareil, c'est pas en homme d'affaires que je vous parle, je suis nul en chiffres, je suis fâché avec les maths, ou les chiffres sont fâchés avec moi, comme vous voulez, je confie ça à d'autres. Moi, tout ce que je ne sais pas faire, je le délègue, hein, je le confie, ou je ne le fais pas. Et en revanche, j'ai appris qu'il fallait déléguer. Et c'est pas pour le budget que l'histoire m'intéresse, c'est pas pour ce que ça rapporte. N'avoir rien n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est vivre bien. Et là, c'est une vraiment très belle aventure. À l'autre bout du monde, dans un endroit inouï, et une très très belle histoire. Et c'est pas sur une petite lucarne, c'est 3000 m² de surface en relief. Enfin, c'est du sérieux, quoi. Du lourd. C'est en train d'avancer. Vous savez, c'est comme une graine qu'on sème à un moment, et puis on sait pas comment elle va germer ni à quel moment, mais elle va germer.
Qu'est-ce que vous avez voulu nous transmettre avec ces très belles images prises du ciel en hélico, ces paysages de France que l'on a pu apprécier grâce à la carte trésor?
Entre autres, parce qu'avant ça, j'avais filmé toute la France en hélicoptère. Oui. Quand Drucker m'avait demandé une idée, je lui ai dit, on n'a qu'à survoler toute la France en hélico, c'est facile. Il m'a dit, oui, ça coûte cher. Je lui ai dit, écoute, t'inquiète pas, je vais le produire. Je l'ai produit, j'ai trouvé les moyens de le faire. Quand j'avais 18 ans, je crois que je venais d'avoir mon bac, tout juste, j'ai vu Out of Africa, le film, vous savez, Redford, Meryl Streep, l'écharpe blanche, le biplan qui décolle dans l'ouest africain, enfin, face au soleil. Et il y a une phrase qui s'écrivait à la fin du film, où il vole beaucoup puisqu'il a son petit biplan. C'est un peu l'histoire du Messie récalcitrant de Richard Bach qui a écrit Jonathan Livingstone. Et il y avait une phrase qui s'écrivait, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, qui disait « Voler, c'est voir le monde avec les yeux de Dieu ». Et je me suis dit « Tiens, je vais apprendre à voler ». Puis en plus, je suis Toulousain, donc je voyais le Concorde décoller sous mes fenêtres tous les jours. Je l'avais vu au premier vol. J'avais fait un baptême de planeur déjà à l'époque pour bonne conduite. Ça m'arrivait pas souvent au lycée, à Toulouse. Et je me suis dit, finalement, ouais, effectivement, c'est une vision divine. Puis c'est une vision nouvelle pour l'espèce humaine, quoi. Il y a 150 ans qu'on vole, et à peu près quoi, 50 ans qu'on peut faire des prises de vue aériennes qui soient belles. Regardez le succès de notre ami Arthur Bertrand. Preuve que ça fascine. C'est fascinant de voir le monde d'en haut. Et j'ai eu envie d'abord d'apprendre à piloter tous ces engins, et je crois les avoir tous essayés à peu près à ce jour. À peu près tous, hein, pas exagérer non plus, mais surtout pour la vue qu'on a de là-haut. Voilà. Et après, embarquer une caméra, c'est facile, mettre des cassettes dedans, s'entourer d'une équipe qui sait très bien piloter, parce que c'est quand même un métier, hein, faire l'image. J'ai un ami, Franck Aristier, qui m'a appris à piloter, mais qui sait aussi faire une très belle image. Bruno Cusa, qui sont mes copains de toujours. Moi, je suis très copain, hein, très fidèle en amitié. Quoi, là. Et donc, je travaille avec les mêmes depuis 15 ans, 20 ans maintenant. Et, mais surtout, je suis bien entouré, mais j'ai la chance que quand j'ai une idée, hop, l'équipe arrive. J'ai juste un coup de fil à passer, tout le monde se regroupe autour du projet. Et ce que j'ai eu envie de faire passer pour revenir, je fais plein de digressions tout le temps, hein, c'est pas bien, pour revenir à votre question, c'est que j'ai envie de faire partager aux autres cet émerveillement qu'on a devant le monde vu du ciel, quoi, qui est un enchantement, c'est magnifique, quoi. Même ce qui est laid devient beau, d'ailleurs, c'est redoutable parce que. Je l'ai vu dans le film de Yann, dans Home. Même la pollution, même ce qu'il y a de plus laid, devient beau. Faut se méfier de ça, parce que esthétiquement parlant, c'est magnifique. Alors moi, je préfère montrer les choses qui sont belles. Là, je viens de faire sortir un DVD qui est le premier du genre, puisque personne d'autre ne l'a fait avant. Donc voilà, je suis le premier, hein, c'est pas un grand mérite, mais qui est le survol de Paris en hélicoptère, Paris vu du ciel, et qui est suivi de l'île de France vu du ciel, qui est absolument magnifique. Mais je vous assure que voler au-dessus du monde, c'est quand même... voler pas trop haut, hein, parce que dès qu'on est à 10 000 mètres, on voit même plus que l'homme est sur la Terre, tellement la couche de vie est fine. Mais voler entre 10 et 50 ou 100 mètres au-dessus du sol d'une ville comme Paris, qui est un musée à ciel ouvert, c'est merveilleux, c'est magique, quoi.
Merci beaucoup, Sylvain Gier, d'avoir volé avec nous, justement, d'avoir partagé ces moments d'émerveillement. L'instant où tout a basculé aux éditions Carnet Nord. Merci.